France Culture.
Et je vous présente mes camarades de jeu du jour. Olivier Lame, journaliste et critique à Libération, bonjour.
Bonjour Marie.
Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrecuptibles, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Voilà comment commence ce nouvel album tant attendu de la reine britannique Charlie XCX. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'éloigne radicalement de l'hyperpop avec ce morceau sombre en duo avec le vénérable John Cale, 83 ans. Cet album est donc la bande originale du film Hurlevent d'Emerald Fennell, sorti la semaine dernière. Au départ, la réalisatrice avait demandé une seule chanson à l'artiste qui s'est lancé dans le projet et en a fait justement un projet total, 12 morceaux. Un disque selon les propres mots de Charlie XCX, brut, sauvage, sexuel, gothique, britannique et torturé. Tient-elle ses promesses? D'abord quelques mots, Carole Boinet.
Oui, elle tient ses promesses en tout cas de torturer, de sauvage, de cru, etc. Après, je trouve qu'elle tient surtout la promesse de faire en fait une suite assez maligne à Brat, parce que tout le monde attendait avec une grande impatience le successeur de Brat. Et en fait, je trouve que Charlie XCX, elle arrive à déjouer de façon marketing et donc assez maligne cette grande attente en justement lâchant plutôt la BO d'un film. C'est-à-dire que c'est un album qui se tient en lui-même, mais c'est aussi un album qui est la BO d'un film, qui est une partie donc d'un tout qui le dépasse aussi, et donc finalement les attentes vont être forcément un peu moindres sur cet album. C'est un album de Charlie, mais c'est aussi autre chose. Et je trouve ça assez malin de sa part d'avoir fait ça. Après, effectivement, l'album, il est intéressant. J'ai envie de dire, le morceau qu'on vient d'entendre avec John Cale est le morceau le plus intéressant de l'album. Le reste est parfois même un peu classique, voire un petit peu ennuyeux.
Olivier Lame.
Pour moi, c'est le moment où le grand public, c'est-à-dire celui qui a découvert Charlie XCX avec Brat, va découvrir qui est Charlie XCX. Voilà, tout simplement.
On va écouter d'abord un autre extrait que vous avez choisi, Carole, c'est Altars. As I kneel before your altar, Carole Boinet, où est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve de Hurlevent du film dans cet album?
Alors moi, je préfère vous dire tout de suite, je n'ai pas vu Hurlevent, je n'ai pas vu le film, mais ce qui est intéressant,
en tout cas de l'univers de Wuthering Heights,
c'est-à-dire que au moins je trouve que l'album se tient sans avoir le film. J'en suis la preuve vivante, et je trouve que le morceau qu'on vient d'entendre, Altars, est vraiment un petit joyau de l'album, parce que c'est un des morceaux les plus simples, soudain un tout petit peu plus dénudé, dépouillé que les autres, et où la voix de Charlie XCX est vraiment mise en avant au premier plan, où elle nous parle comme ça assez frontalement, de façon presque un peu premier degré, un peu cringe, et je trouve que c'est très réussi. C'est très beau, c'est un très, très beau morceau.
Olivier Lame, alors on découvre enfin qui est Charlie XCX.
Oui, c'est-à-dire qu'elle serait plus Madonna que Taylor Swift, dans le sens où Taylor Swift fait tout le temps le même disque avec des légères variations extrêmement, égocentrées. Et Madonna, je veux dire, dans les années 80-90, à chaque fois qu'elle faisait un disque, en fait, il y avait tout un projet marketing très fort sur l'idée d'une réinvention, on peut dire. En tout cas, il y avait une machine qui se mettait en branle, qui faisait que tout d'un coup, elle sortait un projet qui allait être très différent, qui était quasiment une réponse dialectique au précédent, et on savait pas de quelle couleur seraient ses cheveux, et surtout, on savait pas quelle plastique en fait prendrait l'album. Et Charlie XCX, en fait, elle fonctionne beaucoup comme ça. Elle a beaucoup fonctionné à l'époque où elle cherchait le succès, jusqu'à pendant lui nombreuses années en fait où elle a travaillé très dur, elle a charbonné très dur, notamment en composant beaucoup de chansons pour les autres, pour devenir elle-même une pop star. Et elle faisait une espèce de ping-pong que je trouvais assez intéressant. Elle disait je fais un disque pour la maison de disque et je fais un disque pour moi. Et ce qui est étonnant, c'est que Brat, c'était complètement un disque pour elle et c'est celui-là qui l'a fait exploser. Mmh. Et là, en fait, elle force en fait le balancier en allant de l'autre côté. Et ce qui est passionnant, c'est qu'elle fait un disque qui non seulement effectivement esthétiquement revient en fait à des choses qu'elle a déjà explorées. En fait, elle dit que c'est elle parle d'Angleterre, de gothique, etc. Mais en vérité, si on réécoute son tout premier album qui s'appelait Sucker, qui est pas un bon disque, hein, je précise. Mmh. Mais elle avait cette esthétique plus proche du rock, en fait, sans même évoquer ses toutes premières expérimentations autoproduites qui étaient des mixtapes qui l'ont fait connaître, où elle mélangeait mais absolument tout et n'importe quoi, mais c'est surtout sur le ton, en fait. C'est-à-dire Brat était un disque de qui était un disque qui avait ses moments d'introspection, mais qui était un disque qui était, on va dire, basé sur une espèce de qui était une grande fête, envers une fête qui pouvait en fait embrasser notamment l'autodestruction, mais qui était quand même une grande fête, on va dire, sur le toit d'un immeuble à Dubaï, avec une espèce de doigt tendu, on va dire, envers le futur, le capitalisme, tout ça, avec un côté un peu punk dans le sens de nos futurs, quoi. Et celui-là, en fait, est un disque qui prend complètement en charge l'angoisse du succès, presque le regret du succès, et pas du tout comme a pu le faire à une époque Drake. En fait, le côté lonely on top, enfin tout seul sur le toit du monde, extrêmement riche, etc. Parce que par ailleurs, je pense pas que Charlie XCX soit devenu milliardaire non plus, mais plutôt sur toutes les chansons en fait, donc qui effectivement reprennent la thématique du film et donc du roman d'Emily Brontë sur le désir, on va dire contraint, le désir contraignant. En fait, ici peut être aussi vu comme une lettre adressée à son public. C'est vraiment frappant. Chaque chanson, en fait, on peut l'écouter comme une sorte de fuite en disant je suis désolé, mais là en fait ça va pas être possible. Il y a un côté coitus interruptus. Si on regarde un peu la carrière d'une pop star comme on va dire comme quelque chose de libidinal, hein, voilà, freudien. Et là on est vraiment sur un moment de cuite et de elle a besoin d'être seule en fait. Et c'est assez beau. On pourra revenir aussi sur ce qu'elle fait plastiquement et aussi au niveau de l'écriture. Moi, je trouve pas du tout que le disque est décevant et soit du remplissage ou soit moins, peut-être formellement plus classique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très inventives, et notamment dans le travail qu'elle fait avec Finkin, qui est un des plus brillants et peut-être moins connus aussi producteurs de l'écurie PC Music, qu'elle a beaucoup accompagné depuis qu'elle a commencé à travailler avec Sophie et Edgy Cook il y a une quinzaine d'années maintenant.
Charlotte, n'importe quoi, pardon, Carole.
Parce que Charlie XCX, ça va être Charlotte.
Voilà, c'est ça. Comme quoi, je suis très
loin. Je suis assez d'accord avec ce que dit Olivier. Après, je trouve qu'il y a une inventivité, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez sur le côté, elle revient à des sons qu'elle a déjà explorés. Et effectivement, moi, ça m'a beaucoup fait penser notamment à son album True Romance. Et en fait, elle explore des sons qui maintenant sont un peu estampillés indie sleaze, c'est-à-dire des sons, en gros, qui sont nés entre 2007 jusqu'à 2016. Pour faire large. Et donc, il y a un côté qui est un peu nostalgique aussi dans cet album, où finalement, elle va piocher elle-même dans sa discographie passée pour la réinterpréter, pour s'en ressaisir, pour en faire une sorte de commentaire. Donc, c'est inventif, mais quand même avec une sorte de regard un peu passéiste, quelque part, dans ce qu'elle a déjà exploré. Et il y a quand même une sorte de déluge de cordes tout au long de l'album. Je comprends, hein, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté-là, comme si Wuthering Heights devait être résumé à un déluge de cordes, comme si John Cale devait se résumer à un violon strident. Donc il y a un côté qui est quasiment un peu pastiche par moment, mais qui n'est pas inintéressant, parce que Charlie XCX travaille beaucoup sur le pastiche, c'est-à-dire que toute sa musique, d'ailleurs c'est ce qui la rend très intéressante, toute sa musique est à la fois premier degré littéral et à la fois quelque part, ce que disait Olivier aussi, une sorte de pas de côté permanent, une sorte de commentaire permanent sur la musique elle-même. C'est ce qui la rend intéressante, mais il y a un petit côté qui est un peu pastiche sur cet album et qui est un peu pastiche aussi sur le film, j'ai l'impression. Mais le film lui-même m'a l'air d'être quand même très caricatural.
Oui, en tout cas très cliché sur certaines choses. Olivier Lam, vous vouliez parler de la plastique.
Oui, parce que on peut parler des cordes effectivement, mais c'est pas non plus on va dire que c'est pas des cordes génériques comme on peut les entendre sur les grands albums de pop avec beaucoup d'argent. C'est je pense qu'elle a il est américain, il est pas britannique, mais je pense qu'elle a beaucoup rêvé à toute l'esthétique liée à Samuel Barber, voilà, qui on peut pas faire plus
qui est Samuel
cinématographique, compositeur américain du XXe siècle, qui dont l'Adagio est un des plus utilisés dans le cinéma depuis Platoon, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a été repris, encore repris, et dont là il y a, je sais plus comment s'appelle la chanson, mais il y a c'est quasiment une variation en fait à non plus finir autour de ça, et aussi effectivement sur ce côté un peu grinçant qui est un hommage à John Cale. D'ailleurs, le fait qu'elle invite John Cale, c'est pas lié au fait que John Cale soit gallois ou qu'elle puisse rêver le regarder comme un Heathcliff par exemple. C'est parce qu'elle regardait en fait le documentaire réalisé par Todd Haynes sur le Velvet Underground, et elle s'est mis un peu à délirer un peu sur cette contrainte qui était celle du Velvet Underground en fait à la fin des années 60, et ça lui a, moi j'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'elle en tire comme parole, comment il disait, est-ce que je vis dans ce monde, est-ce que je vis dans un autre monde que j'ai créé, et il demande pourquoi, et voilà, on en revient à la problématique de la créatrice de pop, etc., qui se retrouve un peu piégée par le déluge qu'elle a elle-même créé. Et ensuite, il y a cette opposition entre les cordes, entre les sons, on va dire, organiques, instrumentaux, etc., et ce travail électronique, en fait, qui vient systématiquement découper, mettre en cadence, mettre en rythme, redistribuer dans l'espace de la stéréo ou de du Dolby Atmos, si vous avez ça sur votre machine à la maison. Plus les basses, plus les sons électroniques traités. Voilà, il y a un critique du Guardian qui parlait de Nine Inch Nails. Alors, on n'est pas complètement dans cette esthétique-là, mais c'est pas complètement idiot sur les sons électroniques abrasifs. D'accord. En fait. Et il y a vraiment, si on écoute mesure après mesure, il y a un travail de mixage, etc., de mise plastique. Moi, je trouve vraiment passionnant, et c'est pour ça que pour moi, c'est pas un disque qui est moins hyper pop, parce que de toute façon, l'hyper pop, on l'a toujours pas vraiment réussi à définir ce que c'était. Mais si on considère que les gens avec qui chez Alexis X, comme Eddie Cook ou donc Finkin, anciennement Easy Fun, sont des gens qui ont façonné ce qu'aujourd'hui on appelle l'hyperpop. Ouais. Et sur l'hyperpop, on est complètement dans cette continuité, et on en parlera ensuite avec Daniel Arles, qui est une autre sommité de PC Music au départ, avec qui elle a elle-même travaillé à une époque.
Charlie XCX, il faut le rappeler aussi, elle a présenté cette semaine son film, ce mockumentaire, si on peut dire, sur le bras de tour. Film dont elle a eu l'idée, qui a été réalisé par Aidan Zamiris, ça s'appelle The Moment, vous l'avez vu?
Bah non, on n'est pas à Berlin.
On n'est pas à la Berlin, voilà. Vous n'avez pas eu accès à des projections.
Les retours sont pas très bons, hélas. Mince. Moi, j'étais très intrigué par, c'est un mockumentaire, donc qui est un faux documentaire sur sa tournée, tout le bazar autour de Brat, etc. Mmh. Moi, je suis quand même curieux de le voir.
Malgré tout, sur justement, j'ai l'impression que c'est un mockumentaire, donc il y a aussi ce côté où peut-être elle va proposer une critique d'elle-même, ou peut-être une sorte de méta-proposition, en tout cas, sur tout ce qui s'est passé autour de Brat.
Ouais, et elle sera aussi à l'affiche de I Want Your Sex de Greg Araki.
Absolument, et il y a le premier film dont elle est le premier rôle, en fait, je crois qu'il sort en juin. Je vais pas me souvenir ni du titre, ni du nom du cinéaste, mais ça sort en mai.
C'est Eruption de Pete Howe.
Eruption, voilà, exactement.
C'est ça, exactement. Withering Heights de Charlie XCX, sorti chez Atlantic Records. Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrecuptibles, notre partenaire, et donc c'est le moment de votre coup de cœur.
Oui, j'ai très envie cette semaine de vous parler de ma passion pour Fio, une artiste londonienne qui jouera au Closer Music Festival à Lafayette Anticipation à Paris ce samedi 21 février. Alors, petite parenthèse, le Closer Music, c'est un festival dédié aux musiques indépendantes et expérimentales qui a le mérite et la beauté de débroussailler des territoires méconnus, à l'exemple de Fio, donc, qui, à 22 ans, a sorti un sublime premier album, Goodness, à l'automne dernier. Chez elle, la musique ne se fait ni hyper, ni maximaliste, ni ostentatoire, plutôt délicatement dénudée d'une simplicité sourde, brumeuse, hantée. Thank you. Fio va chercher dans le drone l'ambiante, accueille ici un piano, là une guitare, puis surtout caresse les sons d'une voix claire, sereine, murmurante et pourtant présente et précise, comme une bouffée d'air dans un environnement obscur, presque brouillé. C'est une musique de contraste qui dépose en nous de petits fantômes. C'est une musique qui déploie des paysages granulaires pour dire la vulnérabilité, la solitude, la douleur et la douceur, l'amour et la peur. Car les textes sont très importants chez Fio, musicienne et poétesse, qui parle autant de ses propres expériences que du monde qu'elle habite. Sur le morceau On Here, elle supplie son partenaire de fuir Londres, cet endroit, je la cite, qui a été fait pour durer dans le temps et non pour accueillir l'amour.
Mais Fio n'a pas fui Londres, elle y vit toujours.
Et oui, elle y vit toujours. Théodora Laird, de son vrai nom, est une figure de la scène expérimentale londonienne, plus précisément du quartier de Bermondsey, au sud de la ville. Elle y a créé une résidence artistique, Grain, aux côtés du bassiste Caius Williams. Fio est aussi proche, attention moment name dropping, de Lorraine James, Mika Levy, Tirza, de ces musiciennes qui, comme elle, cherchent, explorent, tâtonnent, qui construisent d'étranges édifices sonores par le dépouillement, la déconstruction. Son premier album, Goodness, est sorti sur le label AD93, l'un des plus passionnants actuellement. Sa tête pensante, Nick Tusker, s'intéresse à l'hybridation de l'expérimental et de la pop, de la techno et du R&B, une hybridation férocement politique et souvent queer. Le festival Closer Music le célèbre ce week-end à Lafayette Anticipation, en accueillant trois de ses artistes, Fio donc, mais aussi Alpha Made et VZ.
Merci beaucoup Carole. Fio, premier album, Goodness.